Ce matin, on aura trois lectures. Pour ceux qui ont leur Bible, la première sera dans Josué. Je vous donne juste le contexte. Il y a eu la prise de Jéricho, une victoire magnifique, et la défaite d'Aï, on dirait chez nous, une pâtée retentissante. C'est à la suite de ça que je vais vous lire le texte en partie. Le Seigneur dit à Josué, donc après la défaite, n'aie pas peur, ne te laisse pas décourager. Prends ton armée et va attaquer la ville d'Aï. Regarde, je te livre le roi d'Aï avec son peuple, sa ville, son pays. Tu agiras avec cette ville et son roi, comme tu as agi à Jéricho et avec son roi. Mais vous pourrez prendre cette fois, pour vous, comme richesse de guerre, leurs biens, leurs animaux. Prépare une attaque par surprise, par l'arrière de la ville. Alors, fort de son expérience, Josué a préparé cette fois-ci son armée. Il a pris 30 000 hommes. Ils sont partis de nuit, donc il leur a bien expliqué à l'avance comment ils allaient faire. Ils sont partis de nuit et se sont mis d'un côté de la ville d'Aï. Il y avait une vallée, un creux entre la ville d'Aï et où ils se sont installés, ils se sont mis là. Et puis il en a pris 5000 autres qu'il a fait passer par derrière. Et ils ont attendu le matin. Alors au matin, le roi d'Aï monte sur sa muraille, ses soldats, qu'est-ce qu'il voit? L'armée de Josué, comme la dernière fois. Il a une bonne expérience, il les a battus. Alors ils se préparent, ils s'arment, ils prennent leurs arcs, toutes leurs affaires, et le roi et tous les hommes de la ville sortent. On va récidiver. Alors ils partent à la rencontre de l'armée de Josué. Josué, il fait mine de se sauver, comme la première fois. Ils s'en vont. Du coup, le roi leur court derrière. Il vide la ville. Il a seulement les femmes et les enfants. Et à ce moment-là, Josué prend son arc. Il tend son arc. C'était le signal. Et ceux qui étaient derrière sont entrés dans la ville. Ils ont massacré les habitants. Ils ont mis le feu à la ville, et quand le roi et toute son armée se sont retournés, ils ont vu leur ville en flammes. Du coup, ils se sont trouvés pris en tenaille et complètement massacrés. Après cette victoire programmée par Dieu, finalement, sur le mont Ebal, Josué bâtit un autel pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Il le construit comme Moïse, serviteur du Seigneur, l'a commandé aux Israélites. Cela est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre non taillé, qu'aucun outil de fer n'a jamais touché. Ensuite, sur cet autel, les Israélites offrent des sacrifices complets, des sacrifices de communion. À cet endroit, Josué écrit sur des pierres une copie de la loi que Moïse a écrite pour les Israélites. Tous les Israélites se tiennent de chaque côté du coffre de l'Alliance, en face des prêtres lévites qui le portent. Il y a donc les anciens, leurs chefs, leurs juges et les étrangers installés chez eux. La moitié des Israélites est placée du côté du mont Garizim et l'autre moitié est du côté du mont Ebal. Moïse, le serviteur du Seigneur, a commandé de faire ainsi pour bénir le peuple d'Israël. Ensuite, Josué lit toutes les paroles écrites dans le livre de la loi, les bénédictions et les malédictions. Josué lit tous les commandements de Moïse, il n'en oublie aucun. Il les lit devant tout le peuple d'Israël, hommes, femmes, enfants, et devant les étrangers installés chez eux. Le deuxième texte, c'est dans le petit prophète Osée. Le Seigneur déclare, ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Elle ne m'appellera plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. J'enlèverai de sa bouche le nom des Baals, et personne ne se souviendra plus d'eux. Alors, je ferai pour mon peuple une alliance avec les animaux des champs, avec les oiseaux du ciel et les petites bêtes de la terre. Je supprimerai dans le pays les arcs, les épées et les armes de guerre. Et je permettrai aux habitants de dormir tranquilles. Israël, tu seras ma fiancée, tu seras pour toujours, tu seras ma fiancée. Et la dot que je te donnerai, ce sera la fidélité et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, la dot que je donnerai sera la confiance. Ainsi, tu sauras que je suis le Seigneur. Le Seigneur déclare, ce jour-là, je répondrai à ce que le ciel attend de moi, et le ciel répondra à ce que la terre attend de lui. La terre répondra à ce que le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche attendent d'elle, et eux tous répondront à l'attente de la vallée d'Israël, la vallée où je sème. Oui, dans le pays, j'en ferai pour moi une vallée où je sème. J'aimerais mal-aimer, je dirai à pas mon peuple. Mal-aimer et pas mon peuple, c'est les noms des enfants d'Osée qu'il a donné, des enfants qu'il a eus avec une prostituée sacrée. Et il les a appelés mal-aimer et pas mon peuple. Je dirai à pas mon peuple, c'est toi. Et lui me dira, mon Dieu. Et le dernier texte, ça sera dans l'épître de Jude. Chers amis, je désirais beaucoup vous écrire au sujet du salut qui est pour nous tous. Mais maintenant, je suis obligée de le faire afin de vous encourager. Luttez pour cette foi que Dieu a donnée de façon définitive à ceux qui lui appartiennent. Je vous écris parce que des hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu afin de pouvoir se conduire n'importe comment et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Depuis longtemps, les livres saints ont annoncé leur punition. Et au verset 18. Mais vous, chers amis, souvenez-vous des paroles que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont dites autrefois. Dans les derniers temps, des gens se moqueront de vous et ils vivront loin de Dieu en suivant leurs désirs mauvais. Sont eux qui divisent les chrétiens, ils ont des idées humaines et non pas l'esprit de Dieu. Mais vous, chers amis, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez avec l'aide de l'Esprit Saint. Restez dans l'amour de Dieu. Mettez votre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, il vous donnera la vie pour toujours avec lui. Marc, je te laisse la parole.
Merci à Martine pour ses lectures consistantes. Je vous ai concocté un menu pas triste pour ce matin. Puisque le thème imposé est le suivant, Dieu est-il un Dieu guerrier ? Et je me suis dit, oulala, dans quoi est-ce que j'en m'embarque avec vous ? Parce que la lecture, en particulier du livre de Josué, nous donne un sentiment pour le moins mitigé. C'est une chose de se dire que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est capable de combattre pour son peuple, avec son peuple. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire de croire en un Dieu qui, sans sourciller, fait massacrer, dit le texte, un certain nombre de personnes, femmes, enfants, vieillards, outre les soldats, dans le droit de la guerre actuelle, on pourrait dire que, autant que possible, les conventions de Genève s'efforcent de préserver la vie des personnes civiles. Or, il semblerait que Dieu n'en a rien à faire des conventions de Genève. Et ça pose quand même un petit problème. En introduction, j'aimerais se dire, au fond, pourquoi reprendre cette question d'un Dieu guerrier. Et cette question ne surgit pas seulement à la lecture du livre de Josué, qui doit être lu avec certaines précautions, j'en parlerai tout à l'heure, Ce texte qui présente en 12 chapitres l'installation des tribus d'Israël en Canaan et qui présente cette installation comme une conquête militaire. Bon, c'est un parti pris de le présenter comme ça. Mais la question « Dieu est-il guerrier ?» se pose aussi aux croyants, qu'ils soient des croyants juifs, chrétiens ou musulmans, qui tiennent à la vérité de leur religion et qui disent « Ma religion, ce que j'ai appris, ce qui m'a été transmis, c'est vrai, c'est la vérité, je dois le défendre face à d'autres croyances, je dois l'affirmer, je dois me battre pour la vérité de ma foi. » Et cette foi doit trouver son inscription, je dirais même, territoriale, de telle façon que dans cette région, dans ce territoire, eh bien, la foi régisse la vie non seulement de la personne, mais des autres habitants. Et si on en arrivait à brader cette foi, ces convictions, eh bien, ce serait même un reniement de Dieu. N'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on pose le problème. On doit se battre pour la vérité, en particulier nous, de la foi chrétienne. Ainsi, pour beaucoup de chrétiens d'Occident, je donne un exemple, hein, l'Europe doit rester chrétienne, à tout prix, résister à l'implantation sournoise de l'islam qui avance. Enfin, vous voyez, on se fait tout un cinéma là autour, au nom de la défense du christianisme, par exemple. Donc les questions sont réelles, les questions sont actuelles. Et on peut se demander quelle est la fonction que Dieu prend par rapport à la foi qu'il nous demande de tenir. Même chose pour les Juifs en Palestine. Pour les Juifs orthodoxes, la Palestine doit être même nettoyée de sa population arabe pour constituer une terre entièrement consacrée au Dieu d'Israël, une terre entièrement juive, n'est-ce pas ? Et du coup, cette manière de poser la question cautionne ce qu'on appelle de l'épuration ethnique ou de l'épuration pour des motifs religieux. Vous n'êtes pas du bon côté, eh bien, allez vous faire voir. Et ça pose des questions fondamentalement difficiles. Est-ce que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu particulariste qui veut, au fond, la vie pour certaines personnes, mais pas pour d'autres? Alors du coup, il fait ses choix, puis on est content quand on est du bon côté, tant pis pour les autres. Ou bien, est-ce qu'il y a, à l'intérieur des textes bibliques, aussi une critique sur ces représentations? Et c'est cela qu'il nous faudrait regarder ce matin. On peut encore penser à l'islam, qui pose la question un peu dans les mêmes termes, en se disant « Tout territoire qui peut être soumis à la charia devient un territoire d'islam qui exclut les autres formes de religion, en tout cas qui donne un statut inférieur aux autres religions, de telle manière qu'il n'y ait pas de pluralité religieuse. » On voit bien où sont les chocs que tout cela implique. Dans cette logique, il est compréhensible qu'un certain nombre de courants religieux s'efforcent de trouver des justifications théologiques à des attitudes d'exclusion. Justifier la violence contre ceux qui sont d'une autre tradition, contre ceux qui viennent d'ailleurs, contre ceux qui ont éventuellement une autre culture, d'autres présupposés, tout ça pour préserver une sorte de pureté religieuse. Mais on peut vraiment se demander si c'est ça que Dieu veut. Et si Dieu cautionne la violence que des humains exercent à l'égard d'autres humains à partir de cultures religieuses différentes. Vous avez certainement entendu parler de la théorie du choc des civilisations qui propose de lire comme un affrontement religieux les antagonismes entre Occident et Orient, entre christianisme et islam, entre civilisation occidentale et civilisations de l'Extrême-Orient, la Chine en particulier, et bon nombre de conflits actuels utilisent des motifs religieux ou le concept de guerre sainte pour alimenter soit des conflits ethniques, soit le fait d'étendre une sphère d'influence. Croyons-nous en un Dieu guerrier ? Eh bien, je pense que vous ne croyez pas vraiment à un Dieu guerrier qui prendrait en quelque sorte, sinon du plaisir, du moins une légitimité sans sourciller au massacre des innocents. Un Dieu qui ferait triompher sa cause, son droit, en utilisant au besoin la violence, l'exclusion et en anéantissant absolument ses ennemis. Peut-être qu'une part de notre confession de la foi au Dieu Tout-Puissant réveille un peu une sorte de confiance en ce Dieu qui manipulerait l'histoire, qui conduirait les choses en faisant vivre les uns et mourir les autres. Ne disons-nous pas dans notre confession de foi que Dieu aura le dessus à la fin de l'histoire, que tout genou fléchira devant lui, qu'il abattra ses ennemis, que la victoire finale reviendra à Jésus-Christ, ou bien encore que nous devons nous battre pour la vérité révélée en Jésus-Christ. Et alors, tout cela, ça pose les bonnes questions de quel Dieu sommes-nous véritablement les témoins. Alors, reprenons maintenant quelques éléments du texte de Josué. J'aimerais l'aborder à partir de quelques éléments de la recherche récente, tant de la recherche archéologique que de la recherche biblique. Il faut prendre au sérieux ces textes qui présentent Dieu comme un Dieu guerrier et belliqueux, ces textes qui donnent, au fond, une image des combats de Yahvé, le Seigneur, et qui entraînent un certain nombre de personnes dans ces combats. J'aimerais tout d'abord poser la question du statut du récit de Josué sur ses conquêtes. Il faut savoir tout d'abord que cette fresque de la conquête, si elle fait certainement fond sur la réalité d'une installation de tribus israélites dans les collines de Palestine au 13e siècle avant Jésus-Christ, il faut savoir aussi que ce texte a été rédigé bien plus tardivement, dans un contexte particulier. C'est au 7e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du roi Josias, roi de Juda, après que le royaume de Samarie, royaume du Nord, ait été conquis, vaincu et déporté par la puissance assyrienne, que l'on se trouve dans une période où cette puissance assyrienne, qui est culturellement extrêmement puissante, religieusement très forte, militairement puissante, cette puissance a influencé toute la vie du Proche-Orient. Il y a un certain nombre de textes liés au roi Assaradon d'Assour qui parlent de lui dans un discours religieux où l'on entend le dieu d'Assour dire « Je t'ai choisi, je te donnerai la victoire ». Où que tu ailles, c'est moi qui ferai que tu battras tes ennemis, tu pourras les liquider, c'est moi qui te l'ordonne. J'en prends à témoin le ciel et la terre, je fais alliance avec toi, et grâce à mon intervention avec toi, eh bien, tu gagneras. Étonnamment, on trouve dans le récit de Josué le même type de langage, le même type de discours. Il y a une parenté littéraire entre les textes assyriens et certains de ces textes du livre de Josué. Et l'on peut se dire, mais qu'est-ce qu'a fait le ou les auteurs, qui se basent bien sûr sur l'installation ancienne des tribus d'Israël en Palestine, mais qui s'efforce de signifier que le Dieu d'Israël, dans un contexte où Josias, roi de Juda, essaye de s'émanciper de la puissance assyrienne, que veut dire cette confession de la foi en un Dieu qui est plus fort que le Dieu d'Assour, qui est capable de conduire son peuple à la victoire de façon absolue, qui détruira ses ennemis, qui convoque au fond l'intelligence et la force armée de son peuple pour manifester qu'il est le Dieu souverain. Et on voit dans cette veine-là à la fois l'affirmation que Yahvé est le seul Dieu, il y a donc une revendication d'exclusivité sous le règne de Josias pour reconnaître que le Seigneur Yahvé est bien le seul Dieu et qu'il ne faut pas avoir peur des dieux des Assyriens. Mais en faisant ce travail, on pourrait dire rédactionnel, l'auteur biblique ne peut pas échapper au fait de donner une image de Dieu qui devient, d'une certaine manière, à nos yeux, assez insupportable. Un Dieu qui cautionne la guerre, un Dieu qui est d'accord avec les tueries et les massacres, un Dieu, finalement, dont nous avons l'impression qu'il est méchant. Donc, on ne peut pas lire, je dirais, de manière anodine le texte de la conquête, selon Josué, puisqu'il faut placer dans un contexte bien précis ce type de littérature. J'aimerais dire aussi que les recherches archéologiques ont permis de montrer la chose suivante. Au XIIIe siècle, il y a l'implantation de petites communautés rurales, probablement des tribus israélites nomades, qui viennent se sédentariser dans les collines de Palestine. C'est un fait avéré. On recense environ 300 petits villages dont les constructions sont typiques. Et on peut dire qu'il y a un marqueur archéologique pour dire oui, il s'agit bien de tribus qui ont quelque chose à voir avec les Hébreux. Pourquoi ? Parce que dans ces implantations, on ne trouve aucune trace d'os de porc. C'est intéressant. Donc il y a une différence d'avec les autres localités d'à côté qui existent à la même époque où, par ailleurs, on trouve des fragments de poterie, différents restes, enfin tout ce qui est lié à l'agriculture et tout ça, qui est semblable à ce qu'on trouve dans ces petits villages. Mais il y a une particularité, donc cette spécificité, une population qui se démarque de la population cananéenne par, en particulier, une autre attitude alimentaire. Mais comme par ailleurs, les autres attestations indiquent un même style de vie, un même type de culture, eh bien, l'archéologie conclut que les populations ont vécu côte à côte. Cananéens, Hébreux, se sont installés, ont vécu plus ou moins en bonne intelligence. Il y a dû y avoir, bien sûr, des conflits au moment de l'installation des tribus israélites, des conflits autour de l'eau, autour des terres, pour savoir qui pouvait disposer de quoi, et probablement qu'ils sont passablement empoignés, on peut l'imaginer, pour se dire « ça c'est à moi, ça c'est à toi », enfin voilà. Mais on n'a aucune trace archéologique d'une conquête militaire à la manière d'une sorte de blitzkrieg qui ferait que les tribus seraient venues, auraient massacré tout le monde pour occuper le terrain et purifier en quelque sorte le pays de la présence des Cananéens. Ça ne correspond pas à la réalité historique. C'est une indication qui nous permet de se rappeler que la lecture du texte de Josué ne doit pas être prise de manière, je dirais, historicisante, en disant « voilà ce qui s'est passé dans la réalité ». Il nous faut prendre cette distance critique et se dire « ce texte a une portée théologique. Il a une portée spirituelle. Nous pouvons et nous devons en recevoir un message pour nous, pour notre façon de nous situer devant Dieu, avec Dieu, pour nous situer dans le combat de la foi, certes, mais nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas autorisés à utiliser ce genre de littérature pour dire qu'il serait juste d'exclure des gens différents de nous au nom de la foi en Dieu, parce que Dieu aurait décrété qu'ils valent moins que nous. Vous voyez ça, on n'a pas le droit de le faire. Alors ça nous renvoie à la question suivante. Comment entendre ces récits où l'on voit effectivement un personnage important, Josué, convoqué pour conduire le peuple dans des batailles, pour dominer une région, pour attester que le Seigneur est le seul Seigneur? Et je crois que il nous faut garder de ces textes une double conviction. La première, c'est que le Seigneur seul est Dieu. Je crois qu'il est juste de se souvenir de cela et de lui rapporter ce que nous vivons, nous, dans nos combats, nos défaites et nos victoires, de lui rapporter tout cela. De la même manière que, quand le texte dit qu'il faut vouer à l'interdit tous les êtres vivants de la région, c'est une manière de dire, de reconnaître, la fonction de l'interdit, n'est-ce pas, de reconnaître que l'auteur absolu de la victoire, c'est seulement le Seigneur, c'est Dieu seulement. Voilà la fonction d'un interdit, c'est de désigner le vainqueur. Et littérairement, pas forcément dans la réalité, mais littérairement, voué par l'interdit, c'est dire le Seigneur a eu la victoire, c'est lui, l'auteur. À lui seul la gloire. Bien. Tout ça, nous pouvons le faire aussi. C'est important de rapporter à Dieu et nos victoires, et nos combats, et nos luttes. La deuxième chose qu'il faut tirer de ce texte, c'est que quand on se bat pour que la foi soit vivante, pour qu'on ne se fasse pas en quelque sorte accaparer par les critiques contre la foi ou la mise en cause de nos convictions, il faut se rappeler que toutes les ressources de l'intelligence doivent être convoquées. On ne peut pas juste dire « Ah ben, le Seigneur va s'en occuper, qu'il se débrouille, c'est lui le chef qui conduit les combats. » Bien sûr, il conduit les combats, mais il a besoin de notre intelligence. Il a besoin de nos forces, de notre réflexion, de certaines de nos stratégies, pourquoi pas, de telle façon que tout notre être soit consacré au service de Dieu, et pas seulement un petit bout. Et puis peut-être encore un autre élément dont on peut tenir compte, c'est de dire que ces textes soulignent de manière intéressante que Josué rassemble tout Israël pour la bataille. Or, il y a des indications au livre des Juges qui disent que cette époque, à l'époque de la conquête, pardon, pas à l'époque de Josias, à l'époque de la conquête, les tribus étaient chacune pour soi, très dispersés, et que ça n'allait pas du tout de soi de faire l'unité. Donc il y a aussi, littérairement, dans le texte, cette envie, ce souci de rassembler autour du même chef les forces vives d'un peuple. Pour que l'identité soit établie fermement, pour qu'on ne soit pas affaibli par la dispersion, par les divisions. Et il y a là certainement aussi une indication que nous pouvons retenir à titre de communauté chrétienne, d'église chrétienne, en se disant « travailler à l'unité, c'est important ». Il ne faut pas sous-estimer cette tâche. D'où, pour moi, la joie et le plaisir, par exemple ce matin, d'être ensemble, de partager ensemble quelque chose de la parole de Dieu, de se dire que nous pouvons, nous devons, autant que possible, tirer à la même corde. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Nous n'avons pas à justifier une idéologie guerrière en disant que, au fond, Dieu se dresse contre ses ennemis pour les ratiboiser. Ce n'est pas ça, le combat de la foi. Nous sommes impliqués dans un combat de l'amour, dans un combat où la grâce de Dieu est première, dans un combat où l'image que nous désirons garder de Dieu lui-même n'est pas une image qui tue l'autre, mais qui le reçoit dans l'amour. C'est pourquoi j'ai fait lire à Martine le texte d'Osée. Vous voyez, dans ce texte, un prophète qui est de la même époque que Josias, exactement la même époque, étonnamment, Osée dit, le Seigneur livre un combat, il se met en campagne, non pas pour ratiboiser ses ennemis, mais pour regagner le cœur de son peuple. Et ce combat va conduire le Seigneur à éliminer les armes de guerre, à faire que des hommes et des femmes trouvent la paix, que l'on consacre les forces à la construction de la vie commune et pas à se faire la guerre les uns aux autres. Il y a donc, pour la même époque, un autre discours sur Dieu qu'on peut mettre en tension, n'est-ce pas, avec ces récits de conquête des 12 premiers chapitres de Josué, en se disant l'image de Dieu qui est importante de tenir est celle d'un Dieu qui effectivement se bat. Il n'est pas passif. Un Dieu qui s'engage pour son peuple. Un Dieu qui s'engage aussi pour que la cohabitation entre son peuple et ceux qui sont les étrangers, entre guillemets, hein, ceux qui sont là aussi et différents, que cette cohabitation soit possible dans des bonnes conditions. Vous avez entendu dans la lecture biblique la lecture de la loi à Sichem. La figure de Josué, on ne sait pas vraiment dans le texte si c'est la figure de Josué qui revisite la figure du roi Josias au 7e siècle, mais qu'importe. Redire la loi est la nouvelle forme de vie, d'habitation dans le pays que Dieu donne. Et c'est une façon de se dire la responsabilité de chacun, son combat personnel et communautaire, c'est de se consacrer à l'obéissance aux commandements de Dieu. Et ces commandements de Dieu, on les trouve résumés dans le Deutéronome au chapitre 27. Vous pourrez peut-être lire ces textes-là pour vous. Il y a les paroles attribuées à Moïse qui disent, eh bien, tu travailleras à la justice. Tu ne feras pas de coup fourré à ton prochain. Tu seras droit dans ce que tu vis. Tu ne t'accapareras pas le bien des autres. En quelque sorte, pour résumer, tu honoreras Dieu et ton prochain. Et puis suivent des bénédictions et des malédictions, exactement dans les mêmes termes que ce qu'on trouve dans les textes assyriens où le dieu d'Assour faisait jurer fidélité aux Assyriens avec des bénédictions et des malédictions. Quelle image de Dieu voulons-nous servir? Vous voyez, on ne peut pas en rester à cette image d'un Dieu implacable. On serait dans la dérive idéologique. Dieu a du cœur. Il nous l'a attesté, prouvé, en nous donnant le Christ, mort et ressuscité pour nous. Mais auparavant, le peuple d'Israël a dû faire des expériences douloureuses. À partir du moment où le peuple lui-même a dû vivre la domination des Babyloniens, deux siècles plus tard. En 587, c'est Jérusalem qui est détruite. Le peuple est déporté par les Babyloniens et ils vivent eux-mêmes dans leur chair la violence que représente le fait d'être conquis, d'être déporté, d'être massacré et de se retrouver ailleurs, exilé. Et du coup, on ne peut plus tenir un discours où Dieu serait le Tout-Puissant, vainqueur dans toutes les circonstances. Il faut changer la théologie. Et c'est pour cela qu'on voit dans le livre de Josué une relecture des traditions qui fait passer la compréhension du Dieu guerrier à la compréhension d'un Dieu qui donne la loi et qui rassemble son peuple exilé autour de la lecture de la loi. Et on a là, au fond, les racines de la fondation de la synagogue et du culte synagogal des Juifs dans la dispersion. Ainsi, le combat pour la foi se transforme. Et comme je le disais il y a un instant, l'enjeu, c'est que la fidélité des hommes et des femmes qui croient au Seigneur, au Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, cette fidélité puisse s'exercer dans l'écoute, dans l'interprétation, dans la mise en pratique des commandements de Dieu qui sont là pour faire vivre les gens du pays et les autres ensemble. Et vous voyez bien qu'il y a une très grande actualité à cette perspective-là, puisque dans nos pays, que ce soit en Europe ou ailleurs, nous avons déjà tellement de peine à faire vivre ensemble les gens d'ici et les gens qui viennent d'ailleurs, quels que soient les motifs pour lesquels ils viennent. Il y a là un combat auquel le Dieu vivant nous appelle aujourd'hui, qui est, on pourrait le dire, le combat pour la justice, le combat pour la dignité de toutes les créatures qui sont sous le soleil et que Dieu aime pareillement. J'aimerais terminer en disant qu'il y a encore une exhortation pour la communauté chrétienne, spécifiquement. C'est pour ça que j'ai fait lire le texte qu'on trouve dans la petite épître de Jude, où l'on voit que, on pourrait dire, le combat se déplace encore, non seulement du combat pour la justice dans la société, pour toutes les personnes de la société, mais pour que la foi de la communauté soit la plus intègre possible. Et la communauté est invitée à veiller à ce qu'il n'y ait pas de division dans la communauté, à ce que la qualité de la foi ne soit pas mise en crise par une sorte de relativisme, qu'il soit moral, éthique ou spirituel, mais que la foi demeure ferme. Que la confiance dans l'amour de Dieu soit entière. Et qu'ainsi, on puisse s'encourager les uns les autres dans la communauté, être véritablement en train de lutter pour le bien de tous. Et dans la communauté même, il y a ceux qui passent par le découragement. Et c'est important que nous mettions nos forces pour soutenir, aider ceux qui sont guettés par le découragement. Il y a ceux qui passent par la fragilisation économique. Alors comment est-ce que la communauté se mobilise et lutte pour que des moyens d'existence dignes soient possibles pour chacun? Il y a ceux qui passent par la difficulté autour de leur propre santé. Comment est-ce que nous sommes soutenants, aidants pour aider à ce que l'espérance demeure vivante? Nous croyons en un Dieu qui s'engage, qui se bat pour nous, qui a tout fait pour que nous soyons des hommes et des femmes intègres, qui vivons dans la droiture, qui apprenons à vivre dans le service et dans l'amour du prochain. Y aura-t-il une communauté disposée à se laisser toucher encore et encore par le Seigneur, à être suffisamment, je dirais, unis, liés, pour faire la différence dans notre société contre toutes les forces de déréliction, de dispersion et de relativisme qui font qu'il est si difficile pour la jeune génération aujourd'hui de croire en Dieu. J'ai tracé quelques pistes des combats auxquels nous sommes invités. Le Seigneur est vivant. C'est lui, on pourrait dire, qui combat pour nous, qui combat avec nous et qui a besoin de notre cœur, de notre intelligence, de nos forces pour aimer dans notre vie personnelle comme dans notre vie communautaire et là où Dieu nous place, qu'il renouvelle ainsi notre foi et notre amour. Amen.